Une émission par des...
Oh,
des sales gosses, des mal baisés.
Tu deviens hystérique ou quoi?
Des viennes morvandales.
Des femmelettes.
C'est une chieuse, si vous saviez, mais une chieuse.
Des emmerdeuses. Des poilus.
Plus de poitrine et moins de poils aux pattes.
Des putains de féministes.
Moi, depuis ce matin, je me fais traiter de gonzesse, j'en fais pas tout un cake.
Des grosses.
Morveuses.
Mais t'es sûr pour le nom de l'émission, là? C'est pas un peu péjoratif, morveuse?
Non, comme toutes les femmes, elle n'a rien à dire.
Morveuse.
Imaginez-vous au centre de la Bourgogne. Vous êtes entouré de petites montagnes avec ses forêts de sapins, ses bocages et sa nature sauvage. Oui, vous y êtes. C'est le Morvan.
Nous sommes des femmes vivant ou ayant vécu dans le Morvan. On a décidé de créer un podcast féministe pour parler de ce qui nous affecte et nous questionne.
Le féminisme, il est en nous et on le revendique. Le féminisme est politique. C'est notre combat quotidien, ici à la campagne.
Quand on a commencé à réfléchir à ce qu'on avait envie de raconter dans cette émission, notre première question s'est orientée vers notre rapport à la nature. Nous vivons au milieu de la nature, nous en faisons partie.
Alors aujourd'hui, on va parler de ce que c'est être une femme dans le Morvan. Cette vaste question occupera plusieurs émissions.
Épisode 1. La peur du loup.
Pour ce premier épisode, vous rencontrerez une néo-rurale qui confie ses peurs, une forestière amoureuse de son travail et du Morvan, des morvandelles qui se baladent toutes seules dans la forêt, une lycéenne qui ne se voit pas vivre sans être entourée d'arbres, une néerlandaise qui raconte un souvenir d'enfance, et une anthropologue passionnée de littérature jeunesse qui vous parlera de contes.
Morveuse.
Je m'appelle Marion. Je suis arrivée en janvier 2019. Je ne suis pas une fille du coin. Je suis ce qu'on appelle une néo-rurale. Après 10 ans en ville, j'ai fait le choix de m'installer dans un hameau à la lisière de la forêt. À 17h, il faisait nuit. L'obscurité m'effrayait. Elle me renvoyait à mes peurs d'enfant. Descendre toute seule dans ma chambre le soir et tomber nez à nez avec les ombres des serviettes de toilette que je prenais pour des hommes. Aujourd'hui encore, je continue de combattre mes peurs quotidiennement. Et ce dont je vous parle, c'est de la peur du noir, mais aussi de peurs très bien ancrées en nous les femmes. La peur de ne pas être capable, la peur de l'agression, la peur de la violence, la peur du viol. Tout ceci n'est pas l'imaginaire de mon enfance.
Je suis dehors. Vraiment, je me fais violence pour sortir parce que je serais bien restée toute la journée chez moi.
Quand on se sent pas bien et tout ça, on a tendance à s'enfermer chez soi, mais la meilleure chose à faire, je pense, c'est plutôt d'aller marcher, prendre l'air pour vider nos pensées et puis s'ancrer un petit peu.
Ah, et là, 20 ans.
Et laisser de côté notre vie où on est sans cesse en train de courir. Et oui, le fait de prendre le temps de sortir et de respirer l'air frais.
Et je vais chercher un coin de forêt pour essayer de me perdre. Je marche seule, je descends seule sur le chemin. Et déjà, c'est comme si j'étais pas à ma place. Comme si juste se balader avait besoin d'une justification, et c'est pour ça peut-être que j'enregistre.
J'ai vécu en ville jusqu'à mes 11 ans. Et puis après, je suis arrivée dans le Morvan. Voilà, donc c'est là vraiment que j'ai découvert un nouveau regard sur la nature.
Parce que moi, j'ai toujours marché pour aller quelque part. J'ai grandi à Paris, et quand je marchais, j'avais un but en permanence, pour aller de là à là. Et d'ailleurs, je marchais beaucoup plus à Paris qu'ici.
Mais oui, marcher dans la forêt, ça permet, je pense, vraiment de prendre la distance. C'est aussi beau de juste s'arrêter et regarder ce qui nous entoure, parce que c'est de toute beauté. Après, moi, j'ai tendance à m'émerveiller devant beaucoup de choses, et je pense que c'est quand même important.
Pourtant, je sais et je sens que ça me fait du bien. Juste de sortir, de mettre le nez dehors.
s'émerveiller du chant des oiseaux, s'émerveiller...
De regarder les arbres, les bourgeons, d'entendre les oiseaux, de respirer le bon air frais.
Des traces d'animaux qu'on peut trouver, des feuilles mortes ou alors des fleurs ou...
Il y a des traces de sanglier là. À gauche ou à droite? Dans la forêt de sapin.
Ça me fait vraiment du bien, même d'aller me promener toute seule.
Je suis seule. Je pense que c'est ça qui me fait le plus peur. C'est d'être seule.
Quand on est avec quelqu'un, on parle, donc on va pas forcément... Généralement, on discute, donc on va pas forcément, réfléchir, faire un point sur la situation, comment on se sent, essayer de ressentir un peu nos émotions, refaire un point sur la journée, ou je sais pas.
Il faut que, à chaque seconde, je repousse la possibilité de faire seule une mauvaise rencontre. Je suis en train de penser que j'ai pas pris mon téléphone portable. Je me dis juste là, à l'instant, mais si j'ai un problème, comment je pourrais prévenir quelqu'un?
Aller se promener en forêt avec son téléphone et regarder son téléphone en marchant, je pense pas que ça soit très bénéfique, spécialement. Autant rester chez soi pour ça. Donc je pense que pour vraiment profiter des bienfaits de la nature, faut laisser son téléphone chez soi et profiter du moment.
J'aime pas être seule comme ça. Quel genre de problème je pourrais avoir? Moi, c'est surtout rencontrer un homme malveillant qui voudrait me violer dans la forêt ou me tuer. Voilà.
Ça m'a jamais fait peur. Enfin, peut-être petite, avec les histoires de loups, de loups-garous, les grands méchants loups, peut-être. Je m'en souviens pas tellement.
Oh, il n'y a pas bien ce chemin-là. J'aurais pas dû passer par là, dis donc. J'ai pas envie. Je me force un peu, mais je me sens vraiment pas en sécurité, là. Quelque chose d'inquiétant dans tous ces arbres. Comme s'ils me regardaient tous, là. Et avec leur grandeur, ils font obstruction au ciel. Je veux sortir de là.
Et Brechi, est-ce que tu te souviens de ta première balade en forêt seule dans le Morvan?
Non, parce que moi, je me baladais déjà enfant, seule dans la forêt. Et en fait, la seule chose qui pourrait me faire peur, c'est de rencontrer d'autres gens. Et je rencontre très peu de gens ici en Morvan. Et s'il y en a, ils font souvent du bruit parce qu'ils coupent des arbres, par exemple. Et je peux facilement les éviter si j'ai envie. Mais comme j'ai vraiment l'habitude depuis toute petite, que je me sens plus en sécurité en forêt qu'en ville, non. Moi, je ne me rappelle pas de la première fois. La seule fois que j'ai eu peur, c'était quand j'étais dehors la nuit avec mon chien et qu'il y avait des sangliers qui faisaient des bruits, mais incroyables. Et le chien, il s'est mis à courir, et moi après. Mais non, non, j'ai pas peur en fait, non.
Je me rappelle pas du tout de la première fois où je me suis baladée dans le Morvan et je me rappelle pas du tout de la première fois où je l'ai fait seule.
Marion.
Je sais juste que pour le moment, c'est aujourd'hui, c'est vraiment pas quelque chose de difficile pour moi et quelque chose qui n'est plus du tout effrayant d'aller me balader dans la forêt. C'est devenu quelque chose de complètement naturel et au contraire de très ressourçant pour moi d'y aller toute seule.
Personnellement, moi j'ai plutôt...
Lily.
Jamais eu... Je me suis toujours promenée dans la forêt toute seule depuis des années. C'est plutôt commun pour moi. Donc, pour moi, ma sécurité, elle dépend pas du milieu où je suis, quoi. C'est plutôt quelque chose qui m'appartient
Et la peur d'être perdu aussi, ça c'est quelque chose quand on se balade en forêt et qu'on perd le chemin ou qu'il n'y a pas forcément de chemin. Est-ce que ça c'est quelque chose que vous ressentez ou vous avez ressenti?
Ça c'est quelque chose qui arrive tout le temps dans le Morvan. On ne peut pas faire une balade dans la forêt sans se perdre.
Cécile.
Moi j'ai l'habitude de me perdre en forêt, ça arrive environ une fois sur deux. Et ça ne me fait pas peur dans le sens d'être, de ne pas retrouver mon chemin, ce qui c'est souvent la longueur que ça rajoute à la balade qui est effrayante.
Et Marguerite est au fond des bois qui pleure et qui soupire. Mais qui pleure et qui soupire, Lola, mais qui pleure et qui soupire. À qui m'y passerai les bois, moi qui suis si petite. Moi qui suis si petite, Lola, mais moi qui suis si petite.
Si je me sentais en sécurité en forêt. Et quand je dis que je fais ça, on me dit mais t'as pas peur, ça va, mais t'es toute seule en forêt, mais quand même. Et moi je me dis mais non en fait, j'ai pas du tout peur.
Suzanne Thierry, technicienne forestière au centre régional de la propriété forestière.
Je sais pas, je me sens à l'abri en fait, si tu veux. Mais par contre, c'est sûr que c'est quelque chose qui est très puissant dans l'imaginaire. Et c'est une question qu'on me pose très très souvent. Je pense que c'est quand les gens disent ça, c'est en fait l'idée que je sois toute seule qui leur paraît inquiétant. Être complètement isolée, loin de tout. Et... En tout cas, moi, ça ne me gêne pas du tout. Quoi. Je me sens jamais aussi bien que dans la forêt. Et quand t'es vraiment resté longtemps tout seul à faire une activité quelconque dans la forêt, par exemple, quand j'ai beaucoup d'arbres à mesurer, quand je dois faire des diagnostics de station, ou voilà, quand je suis toute seule, au bout d'un moment, quand t'as rien entendu d'autre que les bruits de la nature, que le vent dans les arbres, et d'être totalement absorbée par ça, en fait, c'est super apaisant, je trouve. Et je ressens jamais aucune inquiétude. Je me sens plus en sécurité en forêt que ailleurs.
Notre rêve était de jouer dans la forêt. Chaque fleur, chaque oiseau, chaque mystérieux fracas nous invitait à nous frayer un passage à travers les arbres et les fougères. Mais notre mère insistait pour que nous restions sur le chemin. « Vous êtes trop petite », a-t-elle dit un jour, où, âgée de 6 ou 7 ans, nous l'avions suppliée de nous permettre d'explorer la forêt. « Vous allez vous perdre, c'est dangereux. »« S'il te plaît », avons-nous imploré. « Qu'est-ce que vous voulez faire là-bas, de toute façon ?»« On veut juste explorer », avons-nous plaidé. « Nous promener, construire un fort peut-être. On sera prudente. »« Vous pouvez construire un fort dans la clairière. »« Ce n'est pas pareil. »« Mais il y a des tiques et des crotales et du sumac vénéneux dans la forêt. » Cela nous a stoppé net. « Et les sangliers ?» a dit notre mère. Mère détestait les sangliers. Ils vivaient dans la forêt comme des motoculteurs fantomatiques, rarement visibles, mais laissant de profondes entailles dans la terre où ils fouillaient avec leurs groins à la recherche de vers et de bulbes, et des trous bourbeux là où ils se vautraient dans les ruisseaux. Nous ne connaissions personne qui ait été blessé par l'un d'eux, mais curieusement, ils semblaient incarner toutes les peurs de notre mère concernant la forêt.
Extrait de « Dans la forêt » de Jean Egland.
J'aimais beaucoup monter dans les arbres et je faisais partout, aussi à l'école où j'avais pas le droit. Et parce que si j'avais pas envie de jouer avec les autres enfants, je montais.
Bretje.
Dans ma tête, c'était une arbre énorme et elle n'a pas pu être très très grande. Elle était à côté du bac de sable où on jouait dedans. Et elle avait penché un peu, donc on pourrait se mettre dessus et surveiller très bien tout ce qui se passait en étant à l'abri. Oui, je montais. Surtout s'il y avait une autre surveillante qui ne savait pas que je n'avais pas le droit. Et surtout quand on faisait des jeux, les garçons attrapent les filles et les enferment dans le petit cabanon. J'avais pas envie de ça, donc je montais. Et un jour, il manquait donc la branche la plus basse de l'arbre. Mais en fait, j'arrivais toujours à monter et j'étais le seul enfant qui pouvait monter. Donc c'était super, j'avais l'arbre juste pour moi. C'était un ami, un copain. Mais encore quelques jours après, on a coupé tout l'arbre en fait. On l'a abattu. J'étais même là pour le voir tomber. Et ça m'a vraiment... ça m'a choquée. C'était... Oui, j'avais l'impression de l'avoir tué en fait.
Pourquoi on l'a coupé l'arbre ?
On avait peur que je tombe, sans doute. Moi, j'avais super confiance en moi, je tombais jamais des arbres, mais on avait peur. Et depuis, j'ai souvent remarqué qu'on dit souvent aux enfants, et surtout aux filles, fais attention, fais attention, fais attention. Et surtout si on est bien fringué ou si on porte des pantalons blancs, je sais pas, mais on dit souvent aux enfants de faire attention dans la nature. Et de ne pas s'assalir, etc. Et ça fait de la nature quelque chose de circonscrit, où on ne peut pas entrer comme on veut, et où on s'exclut de plus en plus quand on agit. Et ça me rend triste de voir ça.
Ce que je trouve marquant dans ce qu'on raconte,
C'est à quel point on cherche à nous imprégner, ou même on est imprégné, de ce sentiment de vulnérabilité. En tant que femme, on est une proie. On est potentiellement en danger partout, et encore plus dans un milieu isolé et sombre, et qui est le reflet de notre nature sauvage, telle que la forêt. Moi, une des seules peurs que j'ai qui sont liées à la forêt, enfin, par rapport à la forêt et aux autres personnes dans la forêt, c'est quand je suis en voiture la nuit dans la forêt, vraiment la forêt très sombre. J'ai une peur tout à fait irrationnelle, c'est qu'il y a un ermite qui sorte de la forêt et qui se jette sur ma voiture. Parce qu'il y a ce truc de la forêt, c'est le refuge des fous, des gens qui sont en fuite ou qui ont un problème. Et donc j'ai peur de l'ermite de la forêt qui viendrait m'attaquer, alors que je ne suis pas du tout dans une position de vulnérabilité quand je suis en voiture sur une route dans la forêt. Mais voilà, c'est tout à fait irrationnel, je m'attends à voir quelqu'un sortir du bois.
Où vas-tu ? Que fais-tu ? Où vas-tu ? Que fais-tu ? Dans la forêt.
On vit dans des petits hameaux proches de la forêt. Quand on est seul chez nous, est-ce qu'on s'enferme ? Enfin, moi, je le faisais au début. Puis, maintenant, je le fais plus. Il y a une habitude. Mais c'est vrai qu'on arrive avec cette pensée, cette vulnérabilité, ce danger d'avoir quelqu'un, un illustre inconnu, un homme qui va se perdre dans les montagnes pour venir rentrer dans ta maison le soir. Mais c'est en nous.
Je connais une jeune femme qui s'est installée aussi dans le Mont-Vent, seule, et qui a mis des caméras à côté de sa porte. Elle ferme toujours à clé parce qu'il y a des hommes qui sont déjà venus plusieurs fois la regarder, l'observer comme ça. Apparemment parce que ça leur fascine d'avoir une jeune femme seule qui vit là, dans la forêt. Sa mère, qui s'inquiétait, est même allée porter plainte à la gendarmerie qui lui a dit « Eh bien, que voulez-vous, c'est une jeune femme, c'est pas normal, c'est très rare ici, donc oui, on est intéressé, on vient l'observer. » Donc oui, moi, je fermerais à clé si j'étais seule. Quand même si je sais que rien ne va se passer, je ne vais pas être dans mon lit en train de regarder, de tendre l'oreille, d'écouter est-ce que j'entends quelque chose ou pas.
Moi aussi, j'habite dans une maison qui est de plein pied. Et du coup, je sais que l'été, c'était une grande question pour moi l'été dernier de dormir la fenêtre ouverte. Parce que je me dis, mais comment je vais faire, en fait, si je veux me sentir tranquille de dormir vraiment profondément, d'un vrai bon repos, si ma fenêtre est ouverte, ça me fait un peu... Moi, j'habite plutôt dans un hameau, donc c'est pas seul, les maisons sont un petit peu espacées, mais il y a du monde. Et c'est vrai que là, récemment, mon propriétaire est venu me voir et il m'a dit « Ah, mais finalement, vous êtes seule !» Parce qu'en ce moment, oui, je vis seule, avant, c'était pas le cas. Et il a commencé, des gens passaient, et la première chose qu'il leur a dit, c'est ça. C'est « Ah, maintenant, elle est toute seule !» Alors, je sais pas trop comment... Enfin, il était hyper inquiet, je sais pas exactement pourquoi. Mais... Et moi aussi, j'ai senti, quand il a commencé à le raconter, mais que j'avais pas envie que les gens le sachent, parce que il y avait un potentiel danger, justement, de me dire « Ah, les mecs du coin, là, ils vont venir voir, justement, comme tu dis, ou... » Moi, j'ai peur, en fait, ouais.
Et je ferme.
Clé la nuit, et ouais, c'est que la nuit, quand même.
Quand on a emménagé dans le Morvan, on a emménagé dans une maison qui longeait une petite route, toute déserte. Et mon compagnon est parti plusieurs fois à Paris et moi je me suis retrouvée seule. Et je me souviens très bien d'une fois où qu'en fait quand on est seul la nuit,
qu'on allume les lumières, ben notre intérieur est visible à tous en fait. Et je me souviens d'une fois où j'ai cru, et je crois que j'en étais persuadée, voir le visage de quelqu'un collé à la fenêtre. Et deux semaines après, on était partis en week-end et on a été cambriolés. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu vraiment peur de vivre dans cette maison isolée, dans la nature, juste avec un petit chemin. Et j'ai décidé de déménager. En plus, j'étais enceinte, de déménager dans le bourg d'un village. Parce que même encore aujourd'hui, je crois que je ne peux plus vivre en fait, seule dans la nature.
Un de mes objectifs pour mon deuxième hiver dans le Morvan, et il fallait que j'aie ça, à la tombée de la nuit, avec le décalage horaire, c'était d'avoir des rideaux dans mon salon. Il fallait que j'aie des rideaux, parce que j'avais hyper peur de voir justement ce que tu viens de raconter, c'est-à-dire des visages passer devant mes fenêtres. Mais d'où ça vient, bordel? Et je voulais reparler aussi dans le livre de Jean Egland, Dans la forêt. En fait, elle raconte ça. Alors, je ne sais pas d'où vient cette histoire, je ne sais pas d'où elle a inventé cette fiction. Mais c'est vraiment l'histoire de ces deux adolescentes qui se retrouvent à vivre toutes seules dans la maison de leurs parents. C'est la fin du monde, le monde est en train de s'effondrer, je ne sais pas à quel moment ça se passe. Et en fait, il y a eu à un moment donné, je pense aux trois quarts, aux deux tiers de l'ouvrage, je ne me rappelle plus trop, où en fait elle raconte, il y a un homme qui débarque et qui viole une des deux sœurs.
Il n'y a aucun endroit où nous nous sentons en sécurité. Sortir chercher du bois mobilise tout mon courage. Et pourtant, je recule et frémis, m'attendant à tout moment à être traquée. Et dedans, nous nous sentons à la fois exposées et prisonnières. 10 fois par heure, je me surprends à jeter un coup d'œil par la fenêtre, à scruter la forêt, m'attendant à apercevoir la silhouette qui, je le sais, nous guette. La présence de la carabine, posée telle un avertissement contre l'encadrement de la porte, change l'allure du salon. Une arme est quelque chose de déplaisant. Au lieu de me rassurer, son canon froid, sa crosse lourde et sa fine queue de détente m'effraient autant que le reste et me rappellent que la violence est partout. Il n'y a aucune échappatoire. Même le feu dans le poêle semble menaçant. De la sève suinte en bouillonnant du bois qui craque, les flammes mordent et crachent. Nous sommes cernés par la violence, par la colère et le danger, aussi sûrement que nous sommes entourés par la forêt. La forêt a tué notre père. Et de cette forêt viendra l'homme ou les hommes qui nous tueront.
C'est alors que les chasseurs sortirent de la forêt. Ils suivaient les traces du loup depuis longtemps en tirant des coups de fusil.
Méfie-toi des sylves griffus, des nains gris et des brigands de Borcade. Comment est-ce que je pourrais savoir qui sont les sylves griffus, les nains gris et les brigands de Borcade ? Demande Ronia. Tu les reconnaîtras, dit Matisse. Ah bon ? Et prends garde de ne pas te perdre dans la forêt, ajouta Matisse. Qu'est-ce que je fais si je me perds dans la forêt ? Demanda Ronia. Tu cherches ton chemin, répondit Matisse. Ah bon ? Dit Ronia. Prends garde de ne pas tomber dans la rivière. Qu'est-ce que je fais si je tombe dans la rivière ? Tu nages. Ah bon ? Dit Ronia. Les jours suivants, Ronia passa le plus clair de son temps à s'entraîner avec ardeur, à ne pas avoir peur et à se méfier des dangers. Elle devait prendre garde à ne pas tomber dans la rivière, avait dit Matisse. Alors, elle s'entraîna à sauter sur les pierres glissantes au bord de la rivière, justement là où l'eau bouillonnait le plus. Si elle devait se méfier de la rivière, c'était justement là qu'il fallait qu'elle s'exerce, et pas ailleurs. Quelle chance, dit-elle, d'avoir trouvé un endroit aussi dangereux. Elle y passa des jours et des jours. Ronia finit par ressembler à un petit animal agile et robuste, qui n'avait pas peur des nains gris ni des sylves griffus, et qui était capable de se promener dans la forêt sans se perdre, ou de longer la rivière sans y tomber.
Extrait de Ronia, fille de brigand, par Astrid Lindgren, auteur de Fifi Brindacier.
Mon père m'a lu à haute voix ce livre et j'ai tellement aimé que j'ai appelé ma propre fille Ronia et j'espère qu'elle va se promener beaucoup dans les forêts de la Morvan sans avoir peur.
Qu'est-ce qui t'a plu en fait ? C'était cette notion de courage qu'elle arrivait à acquérir par elle-même ?
Oui, c'était justement ça. C'est un personnage complètement autonome. À un certain point, elle part vivre dans la forêt parce qu'elle est fâchée avec son père et elle habite dans une grotte. Et elle est comme ça, elle décide de survaincre sa peur. Et j'ai trouvé ça passionnant, super. Elle a vraiment des couilles, disons. Ben non, des ovaires. Oui, voilà.
Se souvenir d'hier, redevenir oiseau ou bien rivière, se souvenir d'avant que l'on soit homme. Effacer les réseaux, redevenir rhizome, guetter l'écho sur l'eau, les ocres au ciel, l'horizon éternel. Entends la forêt qui chante, écoute ce que ton cœur arpente, comme un chemin, comme un arpège. Invente-toi des sortilèges.
J'ai grandi plutôt dans la nature et j'adorais grimper aux arbres. Donc j'allais fréquemment me ressourcer en montant au haut d'un arbre. Et je m'inventais des vies, quoi, avec mes nombreux frères et sœurs. On était tantôt des Indiens, des cow-boys, des gitans. Et pour moi, la forêt, elle laisse la place aussi à plein d'interprétations fantastiques. Moi, j'aime bien, avec les jeux de lumière que ça crée, m'imaginer que je suis au pays des fées. Il y a des êtres fantastiques qui m'entourent. Ou que même être dans une ambiance animiste, en fait, de penser que les arbres qui m'entourent ont un vécu, les animaux qui sont là ont leur histoire et que je suis parmi eux, quoi.
Pourquoi aurions-nous peur de nous aventurer au fond des bois ? Les histoires de loups et de sorcières anthropophages nous tourmentent. Les ombres humides des arbres nous inquiètent. Et pourtant, chaque fois que nous traversons les forêts, nous en ressortons grandis. Alors, suivez-moi. Je vous invite à cheminer dans les forêts d'arbres et d'imaginaires. Il y aura des petits bouts de contes émiettés sur le chemin, des histoires picorées que vous pourrez à votre tour mettre dans vos poches. Pour la prochaine fois où l'idée vous viendra de vous perdre en forêt.
Ma maison est dans la sombre profondeur du bois. Viens me voir dimanche prochain. J'ai déjà invité tous nos convives. Et pour que tu reconnaisses la route, j'aurai soin d'y répandre des cendres.
C'est dans la forêt que vivaient les proscrits, les fous, les amants, les brigands, les ermites, les saints, les lépreux, les maquisards, les fugitifs, les inadaptés, les persécutés, les hommes sauvages. Où pouvaient-ils aller ? Échapper à la loi et à la société des hommes, c'était se retrouver dans la forêt. Mais la vie en forêt était inqualifiable. Dans la forêt, on perdait toute humanité. On ne pouvait être qu'en deçà ou au-delà de toute humanité.
Alors, voilà. Voilà ce qui nous effrayait tant dans les bois qui abritent nos origines confuses. La nature sauvage met en péril notre humanité civilisée. On vous aura prévenu. Un pas de plus et c'est le loup qui vous dévore, le monstre qui vous guette, le brigand qui vous dérobe, la sorcière qui vous hache menu. Comment ça ? Vous n'avez pas encore peur ? Bien. Vous avez certainement l'envergure d'une héroïne de conte. Il vous faudra au moins ça pour continuer sur ce chemin.
Depuis les temps les plus reculés, la forêt où nous nous perdons symbolise le monde obscur, caché, pratiquement impénétrable de notre inconscient.
Écrit Bruno Bettelheim dans l'ouvrage qui l'a rendu célèbre, Psychanalyse des contes de fées.
Je veux que vous la preniez tout à l'heure, que vous la meniez dans la forêt et que vous l'égorgiez. Ensuite, vous m'apporterez son cœur et sa langue, car je ne prétends pas être trompé, ou je vous ferai cruellement mourir.
Elle se mit à marcher tant qu'elle put, mais la forêt était si grande et le soleil si ardent qu'elle mourait de chaud, de peur et de lassitude. Elle regardait de tous côtés, sans voir le bout de la forêt. Tout l'effrayait. Elle croyait toujours que le roi courait après elle pour la tuer. Elle marchait sans suivre aucune route certaine. Les buissons déchiraient sa belle robe et blessaient sa peau blanche.
Qui as-tu rencontré au fond du bois ? La sorcière ? Le loup ? Les trois ours ? Les sept nains ? Les 40 voleurs ? Ce qui se joue à l'abri de l'ombre des arbres restera secret aux yeux de nos consciences et à ceux de nos concitoyens. C'est là que l'héroïne fait connaissance avec l'animal étrange, le personnage à mi-chemin entre le rêve et le cauchemar, qui l'accompagnera dans l'épreuve de la traversée, ou se présentera comme l'épreuve elle-même.
Et maintenant, dit Gretel, nous allons voir à sortir de cette forêt de sorcières.
Les amours illégitimes, les premières expériences sexuelles, le meurtre de la sorcière mère, le meurtre de l'ogre père, la fuite du pire. Ce qui se passe au fond des bois restera au fond de toi.
Elle se laissa tomber au pied d'un arbre, un peu déçue, mais décidée en tout cas à l'attendre. Et alors, il lui sembla que l'arbre se penchait sur elle et la serrait tendrement dans ses branches. L'étreinte se fit insistante et elle se rendit compte, soudain, que c'était bien deux bras qui la serraient. Elle tourna un peu la tête et s'aperçut que l'arbre n'était plus un arbre, mais un bel homme qui l'enlaçait avec amour et l'embrassait de tout son cœur.
Moi, je voudrais courir avec mes sœurs aux côtés d'Artémis, me faire femme serre, femme arbre, femme forêt. Moi, je voudrais retrouver ma famille, ses branches et ses racines, les pieds dans la terre monde, le front contre le ciel. Tu reviendras aux clairières, à la lisière, à la lumière des villages et des villes, grandis de cette lutte, lavé de tes doutes. Tu appartiens à la communauté des humains. Tu connais la part d'ombre qui t'habite et tu es prête, désormais, à habiter sans crainte toutes les forêts.
Morpheuse !
Avec Lily, Marion, Cécile, Morgane, Bretje, Thérèse, Léa.